Esperanza.
Et Radio Esperanza reprend avec après un changement de plateau. On a désormais autour de la table les chefs et le CADTM. Pour commencer, Ludo est allé hier avec les chefs sur les routes, chemin du festival.
Sur les pavés du festival avec Aurelio, effectivement. Et ça tombe bien que tu sois là maintenant pour notre entretien, parce que tu as récolté pas mal de sons. Alors aujourd'hui, je vais être un petit peu gentil, on va passer les meilleurs sons, parce qu'on a eu des super résultats, vraiment les trois premiers micro-pavés qu'on a fait ensemble. Donc c'est un micro-trottoir avec le public, avec les festivaliers, et ça a vraiment très très bien marché. La question est simple, c'est Aurelio a demandé donc de définir quels étaient le sens des lettres LGBTQ.
IAP+.
On écoute.
Micro-pavé.
Et voilà, on est ici vendredi, le festival est tout ouvert, tout beau, il y a le soleil qui est en train de revenir, c'est magnifique. Et on va commencer à arpenter le pavé de Esperanza, de l'abbaye, pour nos premiers petits micro-pavés. Et je suis avec Aurelio, salut Aurelio.
Bonjour.
Alors dis-moi, quelle association tu es toi exactement?
Donc moi je suis des chefs à SBL, qui est une association de jeunes de 18 à 30 ans plus ou moins, qui a des cercles LGBTQAP+, un petit peu partout dans la Wallonie et à Bruxelles.
D'accord, merci à toi en tout cas de participer à ce micro-pavé. Et on est avec justement une participante, une festivalière j'imagine.
Oui, je m'appelle Pauline, bonjour.
Bonjour Pauline, vas-y pose ta question Aurelio.
Donc, est-ce que tu saurais définir les termes LGBTQAP+?
Alors, c'est lesbienne, bisexuelle, gay, LGB, T, transsexuelle, Q, queer, I, intersexe, asexuel, il en manque un.
Le P,
pansexuel. Oui.
Et après le plus
pour tous ceux qui veulent être inclus en plus.
Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as dit transsexuel?
Parce que il me semblait que c'était le terme utilisé, transsexuel. Peut-être que non.
Donc en fait, transsexuel, c'est un ancien terme qu'on utilise. Alors, il y a encore des personnes qui l'utilisent, mais dont on va dire ce qui a été maintenant publié dans les prides, etc. Transsexuel, c'est plus vu comme une insulte par certaines personnes. Et en fait, c'est le terme transgenre qui est utilisé. Donc, pour se rebondir sur ce point-là, est-ce que tu sais définir ce que c'est une personne transgenre?
C'est, il me semble, une personne qui est née à la naissance avec le genre qui ne lui correspondait pas, en quel il ne se sentait pas... elle ne se sentait pas bien dedans, et du coup il décide d'avoir une transition vers l'autre genre, ou du non-binaire, ou double binaire.
C'est très bien.
Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
Micro pavé.
Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une question?
Je ne sais pas si je saurais bien répondre.
Il n'y a pas de souci. Comment tu t'appelles?
Malou.
Enchantée. Moi, je fais partie d'une association LGBTQAP+. Est-ce que tu saurais donner et définir les termes LGBTQAP+?
Alors, le début, oui. Alors, redis-moi, LGBT. Donc, lesbien, gay, bi, trans, queer. J'en ai oublié.
Q,
I, non.
Intersex,
ok.
A,
non.
Agent, asexuel, aromantique.
P, non. Non, ouais, j'ai pas le dernier.
Pansexuel, panromantique.
Ok, et plus?
Et plus...
C'est tout le monde.
C'est tout le monde, voilà. Est-ce que tu saurais définir le terme transgenre?
Ouais, je pense que c'est des personnes qui sont nées d'un sexe féminin ou masculin et qui ont fait ou font une transition vers le sexe opposé.
Et pour, c'est la raison de pourquoi?
Pourquoi ils le font? Pourquoi ouais. ils font une transition? Bah, je pense parce qu'ils se sentent d'un autre genre, d'une autre identité
en
de
fait,
genre.
La définition exacte, c'est parce que la personne transgenre, donc c'est une personne dont l'identité attribuée à la naissance ne correspond pas à l'identité de genre ressentie. Et tu as utilisé le terme queer, tu sais le définir?
Est-ce que je saurais le définir Non. Est-ce que je saurais le définir Non. Je pense voir ce que c'est, mais précisément, non.
Ah, en fait,
ça a l'air d'avoir des définitions hyper précises, donc je vais pas trouver les bons mots, là. Vas-y.
En fait, le terme queer, avant, c'était une insulte, mais il a été réapproprié par des personnes qui se définissent queer, tant par leur façon d'être que par la façon de, par exemple, de s'habiller. Et ça va être vraiment toute la communauté pourrait se définir queer, en fait. Nouveau, ça englobe la communauté.
Okay. Du coup, ouais, vous faites partie d'une asso, c'est ça
Oui. Donc nous, on est les chefs ASBL, on est dans le village des possibles, et on est une association LGBTQIAP+, de jeunes entre 18 et 30 ans. Donc merci à toi et bon festival.
Merci à vous.
Micro pavé.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Mathias.
Enchanté.
Vous autres, vous êtes les... Enfin, je sais pas si je peux poser des questions.
Oui. Donc moi, je m'appelle Aurélio et je fais partie d'une association qui est ici... qui est ici au village des possibles. Donc ma question à te poser, est-ce que tu saurais me définir les lettres LGBTQAP+?
Alors donc je pense que c'est pour lesbienne, G pour gay, B bisexuel, T transgenre, transsexuel. C'est pas transsexuel?
Non, c'est
uniquement transgenre. Donc il y a pas, ça compte pas pour les, c'est pas.
En fait, c'est pas pour transsexuel, les deux, quoi. C'est l'ancien terme qui a été utilisé il y a bien des années.
Ok. Et il y a pas une différence je pensais qu'il y avait une différence sémantique, enfin de vraiment dans le sens il y a de transformation physique de l'un et transformation non physique de l'autre.
Je suis une personne transgenre et. J'ai eu des changements physiques, mais je suis pas du tout. Enfin, c'est pas parce que j'ai fait des changements physiques que je suis transsexuelle. On est transgenre, point final. Il y a après la transidentité, il y a tout ce qui va être non-binarité, un genre neutre, etc., etc. Et dans une transition, on n'est pas obligé de faire type opération ou pas obligé de prendre des hormones pour dire qu'on est transgenre. C'est nous qui devons déterminer si on est en transgenre ou pas.
Vous voulez que je continue à répondre pour les autres lettres? Je ne sais plus où on était à T, donc BTQ, cuir, QII pour intersexe, A pour asexuel ou asexué, je sais plus.
Asexuel à romantique.
Ouais. Et il y a une différence entre asexuel et asexué?
Non.
Ok. J'ai dit qu'il y a PP pour pansexuel. P à la suite, je connais pas.
Il y a
une soixantaine, 63, ouais. C'est ça?
Je sais plus exactement, mais il y en a tellement. Si on va aux États-Unis, il y en a encore plus. Alors.
Bah théoriquement, il y en a une infinité, hein, de tout ce que on peut choisir d'être.
Tout à fait.
Mais merci pour l'apprentissage pour transsexuel, parce que je pensais vraiment qu'il y avait une différence donc, de genre. On dit ce qu'on veut, et sexuel, bah, physiquement, il y a une...
C'est plus l'ancienne génération qui va utiliser ce terme. Personnellement, dans l'association pour laquelle je suis bénévole, on n'utilise pas ce terme-là parce que ça peut être repris par une insulte par certaines
okay,
personnes.
Ok, ouais, c'est, ça a une connotation négative.
Ok.
Ben, vous m'avez appris quelque chose.
Ben, merci beaucoup à toi merci. Et bon festival.
Micro pavé.
Voilà, très évocateur ce petit micro pavé. Effectivement, on a tiré les trois premiers numéros gagnants du loto quand on a arpenté le pavé. Effectivement, ben, les gens étaient quand même assez bien renseignés, mais grâce à toi, on a eu quelques précisions importantes. Et merci Aurelio d'avoir participé à cet exercice.
De rien.
Savoir qu'il y aura un micro pavé un petit peu moins consensuel parce qu'on est allé vers une personne un peu plus âgée après qui avait un avis différent. On n'a pas le temps de le passer là maintenant, mais on le retrouvera dans les podcasts sur Radio Esperanza.
Merci Ludo. Tu laisses la place maintenant, mais on va continuer. Enfin, donc Aurélie, on t'a bien entendu dans le son qu'on vient d'écouter. Tu n'es pas venue seule, tu es venue avec Irinelle, c'est ça?
Irinelle, oui, en effet. Je suis aussi des chefs et je suis également du coup président du cercle LGBTQIA+, qui est le pôle bruxellois des chefs.
Ok. Et du côté du CADTM, parce que on a un plateau varié, Pablo.
Oui, bah du coup, moi je m'appelle Pablo, je travaille pour le CADTM et je suis avec Pierre-François. Et donc le CADTM, bah, c'est le comité pour l'abolition des dettes illégitimes. En fait, bah, vous remarquerez peut-être que ça ne correspond pas à l'acronyme parce qu'avant, on s'appelait le comité pour l'annulation des dettes du tiers-monde. Mais on a changé de nom il y a quelques années parce que bah, le mot tiers-monde est un petit peu désuet. Et puis, surtout parce que les dettes du tiers-monde, ça fait référence aux dettes des États du Sud. Et en fait, aujourd'hui, on se concentre aussi sur les dettes des États du Nord. Donc, c'est important, comme on l'a vu par exemple avec la crise de la dette en Grèce il y a quelques années. Et aussi sur les dettes privées, les dettes paysannes, les dettes étudiantes, etc. Donc on a essayé d'élargir un petit peu le spectre d'analyse. Et voilà, bah on est ici aussi au Village des Possibles à Esperanza. Et merci de nous accueillir.
Bah oui, juste on se concentre aussi du coup sur les causes structurelles en fait de la dette. Donc quand on dit qu'on s'intéresse aux dettes privées, etc., on vient souvent nous trouver sur le stand, par exemple, à Esperanza, en demandant si on peut s'occuper d'autres dettes. Oui, pardon.
Mets-toi un peu plus près.
Un peu plus près, comme ça. Et du coup, on nous demande souvent si on peut s'occuper des dettes que les gens ont. Donc malheureusement, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas le cadre d'action du CADTM. Mais on s'occupe surtout d'essayer de faire une production de savoir sur les dettes et les dettes des États, les causes structurelles de ces dettes. Et donc le capitalisme et aussi tous les rapports prédateurs nord-sud et tout ce qui a fait qu'il y a un cercle vicieux de la dette et les impacts que ça peut avoir sur les minorités et sur aussi simplement les personnes qui vivent dans des situations de précarité ou n'importe quoi. Donc en fait c'est une analyse structurelle mais avec des conséquences très concrètes pour chacun chacune dans le quotidien. Voilà, je sais pas ce que...
Okay. Si on n'a pas présenté les chefs. Les chefs, qu'est-ce que fait cette association?
Oui, du coup, c'est une organisation par les jeunes, pour les jeunes. On est un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. On fait particulièrement des activités au sein du cercle étudiant, donc ça peut être des soirées festives, mais on a aussi des activités plus militantes. Et les chefs en eux-mêmes font aussi des sensibilisations dans les écoles ou dans des événements comme le festival ici.
Ok.
Je voulais juste poser des questions un peu générales. Pourquoi Esperanza? Pourquoi cette année? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qui veut commencer?
Ben, je pense pouvoir dire sans me tromper que le CADTM est impliqué dans Esperanza depuis des années. Donc c'est un petit peu une transition pour le CADTM d'être présent sur le Village des Possibles. Et puis voilà, c'est un super festival où on rencontre. Enfin, c'est vraiment l'occasion de rencontrer énormément de monde, même sur le Village des Possibles, où on est aux côtés de plein d'associations super chouettes. C'est un petit peu un moment clé dans lequel on peut échanger des contacts, voir un petit peu les dynamiques et les convergences pour les luttes, etc.
On a entendu dans le micro-trottoir que du côté des chefs, il y avait un public relativement averti, quand même.
Ben, je pense que Esperanza, la, Enfin, la plus grande partie des festivalières et festivaliers sont au courant des thématiques LGBT, mais on est là aussi pour faire connaître les thématiques à des personnes qui ne seraient pas au courant des thématiques, et donc on est ici pour informer par rapport aux thématiques et aussi par rapport à ce qu'on fait en dehors, donc nos cercles, pour qu'ils puissent avoir aussi de la visibilité pendant nos événements qu'on fait à l'extérieur, et aussi pour montrer nos jeux qui ont été créés donc par les jeunes avec l'aide des employés, des chefs.
Ok. Et du côté du CADTM, vous rencontrez un public déjà averti par rapport aux dettes?
Du coup, c'est un peu mitigé, ça dépend. Il y a des gens qui nous connaissent depuis des années, parce qu'en fait, l'association existe depuis les années 90. Donc, on a quand même aussi un réseau international qui est très impliqué dans la production de savoir, etc. On est parfois mandaté, par exemple, par l'aile gauche du Parlement européen pour produire une étude. Et c'est le CADTM Afrique qui l'a produite. Donc, il y a quand même une connaissance dans certains milieux, parfois un peu plus universitaires. On essaye de briser ça et d'aller vers des milieux qui sont concernés par l'éducation permanente, donc des milieux beaucoup plus populaires. Mais en fait, le thème même de la dette rebute en général, puisque c'est un thème qui paraît assez complexe au premier abord. Et c'est aussi un thème qui paraît assez éloigné du quotidien de tous et toutes. Alors qu'en fait, ça touche absolument tous les aspects de la vie, puisque ça touche avec les mesures d'austérité. On voit très bien quand la vie coûte plus cher, quand il y a moins de services publics, quand vous avez moins de banques près de chez vous, quand il y a et ce genre de choses. Mais c'est des sujets qui paraissent un peu flous et un peu trop vastes. Et les gens ont peur de s'y attaquer. Donc le public est parfois très averti, mais souvent les gens ne voient pas très bien ce qu'on fait. Donc voilà.
Moi, personnellement, quand j'ai entendu parler de vous, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Et puis, je réfléchis un peu et je me rends compte qu'on parle de plus en plus de la dette internationale. Et on dit que chaque pays a une dette de je ne sais pas combien de millions de dollars, etc. Mais alors, à qui on doit cet argent? Et pourquoi le monde entier est en dette? Et alors, qui va payer cet argent? C'est ça la question.
C'est une vaste question. Je pense qu'on va s'échanger.
Réponse.
On va s'échanger le micro avec Pablo. Je vais donner un début de réponse et puis après on pourra s'échanger le micro. Mais en fait, le système dette, comme on pourrait l'appeler, le problème c'est qu'il y a énormément de causes et ça dépend vraiment des pays, etc. aussi. Donc par exemple, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des dettes coloniales. Donc en plus de la dette de mémoire et aussi de tout ce qui a été pillé, etc. pendant les colonies, tout ce qui a été exploité, des morts et des massacres. Il y a aussi une dette financière, simplement parce qu'il y a des dettes qui ont été léguées aux États qui étaient nouvellement indépendants, qui avaient été contractées par les États coloniaux, et qui, lors des indépendances, en fait, ont simplement été données aux États qui étaient nouvellement indépendants, mais c'était des dettes qui n'avaient pas été contractées. Il faut vraiment arrêter aussi avec ce mythe du développement et du colon qui a été développé les pays colonisés. En fait, ce n'est pas du tout vrai, c'est souvent des dettes qui étaient contractées par les capitales des pays colonisateurs pour l'exploitation des pays colonisés. Donc on a eu, il n'y a pas longtemps, un très très mauvais article dans La Libre avec quelqu'un qui défendait le fait que le Congo était une colonie exemplaire, qu'il y avait beaucoup de Congolais qui étaient scolarisés, etc., et que c'était grâce à la Belgique et à son œuvre civilisatrice, on entend souvent ce mot-là. Et bien en fait, on nie complètement ce narratif. Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'argent qui a été injecté effectivement au Congo, mais c'était pour créer des chemins de fer qui allaient directement par exemple vers les mines du Katanga pour en extraire les minerais. C'était aussi énormément d'infrastructures qui étaient construites pour l'exploitation du caoutchouc et ce genre de choses. Et en fait, ces dettes-là ont été contractées au nom du Congo, mais il n'y avait jamais aucun Congolais pour prendre cette décision-là. C'était les autorités coloniales belges de l'époque qui prenaient cette décision et qui ensuite ont légué cette dette qui n'avait pas été du tout démocratiquement décidée et qui en plus est absolument horrible puisque c'était pour l'exploitation des ressources et des vies des populations locales. Et donc en fait ça a été légué à l'indépendance. Il faut aussi savoir que ce genre de dette coloniale souvent sont exigées par les États et les colonies très longtemps après, enfin continuent à être exigées, que ces dettes continuent à être remboursées, mais que grâce aux intérêts en fait elles ne sont jamais remboursées puisque les pays ont été sous-développés à cause du fait qu'ils ont été colonisés. Donc quand on dit sous-développé, il faut bien faire attention en termes de développement. Il n'y a pas un seul mode de développement, et ce n'est pas dans un but de dire il faut rentrer dans un système capitaliste et produire, etc., et de la croissance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, pas assez d'enseignement, pas assez de soins de santé, etc. Et qu'en fait, pour produire de quoi rembourser la dette, il y a aussi souvent eu des investissements qui ont été faits, des aides au développement, où on forçait en fait les pays vers des productions de monoculture et ce genre de choses qui sont très peu résistantes au choc. Et donc là, je fais beaucoup de liens, ça part un peu dans tous les sens. Mais tout ça pour dire qu'il y a des causes historiques à la dette et il y a aussi des causes nouvelles, par exemple, comme le sauvetage des banques en 2008. C'est vraiment quelque chose qui est très très étendu et qui a une implication sur à peu près tout. Mais ce qu'il faut très fort retenir en fait sur la dette, c'est que c'est vraiment le motif préféré des gouvernements capitalistes pour dire qu'il faut faire des économies. Et il y a souvent une privatisation des profits. Les banques se sont gavées et beaucoup de grands financiers se continuent à se gaver. Mais il y a une socialisation des pertes. Donc quand on sauve les banques, ben c'est moi, c'est vous qui payez et qui continuez à payer. Et que ce soit de votre poche ou alors que ce soit parce que la vie augmente quoi que ce soit, ou que ce soit parce qu'il y a un chômage de masse, parce qu'il y a moins d'infrastructures, parce qu'on fait des coupes dans les budgets. Et donc en fait, ça a des conséquences vraiment très concrètes. Pareil pour les dettes coloniales, ça continue à être vraiment un coupe-gorge pour tous les pays qui étaient d'anciennes colonies, qui continuent à être vraiment exploités et qui continuent à subir des plans d'ajustement structurel du FMI et ce genre de choses, qui les maintiennent dans la pauvreté, en sachant que c'est souvent une extension de ça. C'est aussi les assassinats politiques, où par exemple, on le sait pour Sankara, qui a été assassiné, pour Lumumba aussi, et ce genre de choses, c'est des anciennes puissances coloniales qui ont aidé à ce que ça se passe, avec des régimes dictatoriaux qui sont mis en place et qui sont soutenus par les anciennes puissances coloniales pour continuer le paiement de la dette. Donc c'est vraiment très très large et assez, ça touche un peu à tout, mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, j'ai été un peu long.
Moi j'ai une question sur vos moyens d'action. Donc est-ce que votre but c'est surtout d'informer les gens, ou est-ce que, enfin, comment est-ce que vous luttez contre la dette et contre, enfin, comment participez-vous à...
Oui, juste un tout petit complément avant de répondre. Mais en fait, juste pour dire qu'en fait, le CADTM, il n'est pas contre la dette à proprement dit, mais plutôt à quoi est-ce qu'elles ont servi et comment est-ce qu'elles ont été contractées, etc. Donc une dette qui a été contractée par un État, par un gouvernement pour construire un hôpital, construire des ponts ou quoi que ce soit, si c'est pour les intérêts de la population, il n'y a absolument aucun problème. Ce qu'on va contester, c'est vraiment quand une dette est contractée contre les intérêts de la population, qui doit assumer le remboursement de cette dette et qui, comme vient de le dire Pierre-François, cette dette va souvent servir de prétexte à l'imposition politique qui creuse les inégalités, etc. Sur les moyens d'action, du coup, le CADTM, il a une approche un peu variée dans le sens où on essaye de faire de la recherche. Donc on essaye de produire des données, des articles, etc. On fait de l'interpellation politique. Donc, par exemple, on avait participé à l'adoption d'une loi sur les fonds vautours. Les fonds vautours, en gros, c'est, pour la faire rapidement, c'est des gros fonds d'investissement qui attaquent des États en difficulté en rachetant leurs dettes à bas prix, et puis qui après les attaquent en justice pour récupérer des intérêts, etc. Mais donc en gros, ils se font des milliards de dollars sur le dos de pays qui sont vraiment en difficulté et qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la population. Le CADTM, avec le CNCD et ATTAC, a participé du coup à la rédaction de cette loi, qui du coup limite vraiment l'action de ces fonds spéculatifs qui ont vraiment des actions nocives. Donc ça, c'est un exemple d'interpellation politique. Et après, bien sûr, on fait de l'éducation permanente, donc on organise des conférences, on fait des interventions un petit peu à gauche à droite pour essayer vraiment de toucher le public le plus large possible et essayer de rendre ce sujet qui, comme on l'a dit, a l'air super lourd et qui n'attire pas du tout les gens, essayer de le rendre un petit peu digeste et montrer justement que c'est au centre d'énormément de luttes et à la base de beaucoup de problèmes, puisque, enfin, peut-être qu'on se répète un petit peu, mais comme par le biais de la dette, on impose des politiques néolibérales. En fait, quand vous voyez, par exemple, même la réforme des retraites en France, si on demande le pourquoi du comment, c'est souvent, on va souvent arriver à la dette comme source en disant on est trop endetté, il faut qu'on fasse des économies, etc. Et on va couper dans les budgets sociaux, on va couper dans les budgets de l'éducation, de la santé, etc. Et c'est... voilà.
Si je peux me permettre d'apporter juste un petit complément, il y a aussi des moyens d'action qui sont assez concrets. Parfois, on est appelé par des parlements ou des gouvernements. Donc, ça a été le cas pour la Grèce d'Alexis Tsipras, qui avait demandé une comité pour la vérité sur la dette grecque. Pour en fait, on fait ce qu'on appelle un audit citoyen. Donc, c'est-à-dire qu'on dissèque en fait tout ce qui se trouve dans une dette, donc une dette d'État. Il faut savoir que c'est très compliqué parce que souvent il y a énormément de créanciers, c'est des dettes parfois qui se remboursent sur du 10 ans, 20 ans. On sait aussi qu'il y a des causes historiques, enfin plein de choses qui font que c'est très compliqué de savoir ce qu'il y a dans une dette. Mais en fait c'est nécessaire et nous ce qu'on veut faire c'est un audit citoyen. Donc ça doit toujours être transparent avec des informations qui sont disponibles pour le public. C'est ça qui est vraiment très important. Et en fait on essaye de décomposer tout ça pour voir s'il y a eu des détournements de fonds, des achats d'armes, etc. qui n'auraient pas dû être faits et qu'on aurait peut-être dû privilégier plutôt l'enseignement et, ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut aussi être plein d'autres causes, mais en gros on dit il y a des parties de dette qui sont illégitimes. Le terme illégitime est assez vaste, mais en gros on a des arguments juridiques, par exemple, comme pour les dettes coloniales où on sait que ça ne devrait pas en traiter... Selon le traité de Versailles, on ne peut pas léguer des dettes à un État qui a été colonisé ou conquis. Donc ça, c'est très clair. C'est du droit international. Il y a d'autres pans du droit international qui le disent aussi. Mais il y a aussi l'argument moral, en fait, qui veut que quand on a des pays du Sud global qui réservent 18% ou 20% de du service de la dette, donc le paiement du capital et le remboursement des intérêts, pour payer simplement la dette, alors qu'il n'y a que 2% ou 3% qui vont aux soins de santé, aux politiques sociales, et en fait qui sont maintenus dans la pauvreté, etc. à cause de ça, et qu'on dit il faut payer, il faut payer, il faut payer. Il faut savoir que les créanciers ne vont jamais mourir de ne pas être payés, puisque ce sont des institutions multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale, d'autres États, souvent des États du Nord riches, ou alors des créanciers privés, des gros fonds d'investissement qui en fait possèdent des milliards. Et donc ces gens-là ne mourront jamais de ne pas être payés, alors que la dette tue des populations du Sud. Il y a de l'analphabétisation, il y a plein de politiques publiques qui ne sont pas prises sous prétexte que ça coûte trop cher, alors que ce sont des services publics et que tout État se doit de fournir un bien-être à ses citoyens et essayer d'augmenter ce bien-être. Ce qui n'est absolument pas le cas, et à chaque fois c'est à cause de la dette et des politiques d'austérité qui s'en suivent. Donc voilà, pour les actions concrètes.
Alors, j'ai une question, et c'est peut-être pour le deux. C'est, je vois que vous êtes impliqué avec plusieurs pays différents, plusieurs personnes qui sont touchées par votre différents types d'actions. Alors, pour CDATM, j'oublie toujours... vous êtes en contact alors avec des associations des pays du Sud aussi qui sont touchés le plus par les dettes, comme tu les appelles. Et vous êtes en contact avec aussi d'associations en États-Unis, en Amérique latine ou d'autres pays.
Oui, en fait, les chefs font aussi partie d'une association encore plus grande qui s'appelle IGLIO. Et donc cette association-là, qui regroupe plusieurs associations à travers le monde, qui lutte et qui milite pour les droits LGBTQIA+, à travers le monde. D'ailleurs, on aura en octobre, il me semble, un congrès, je crois, où on va réunir en fait des représentants de toutes les associations pour faire du réseautage, pour essayer de trouver des moyens d'action tous ensemble, et voilà, essayer d'agir dans l'intérêt de tous.
Et vous aussi, vous communiquez avec des pays d'Afrique, des pays de l'Amérique latine, des associations qui touchent les pays qui sont les plus affectés par les dettes. Tu viens de dire, Jean-Philippe, que la dette, il tue des personnes dans le monde entier. Moi, je viens d'un pays de l'Amérique latine où c'est clairement le cas. Le niveau de pauvreté est très haut et l'excuse est toujours « on est en dette ». Alors, vous avez des communications avec des pays comme ça aussi ?
Oui, c'est sûr. On essaye vraiment de travailler avec un panel large d'organisations. Mais tout simplement, en fait, le CADTM, ce n'est pas juste une ASBL liégeoise. En fait, c'est un réseau international donc, qui a été créé initialement en Belgique. Mais aujourd'hui, c'est un réseau international qui est présent dans une trentaine de pays. Et donc, dans des pays, on est présent sur tous les continents. Et donc forcément, les CADTM, les différents CADTM locaux, où qu'ils soient, eux-mêmes aussi collaborent avec tout un panel d'organisations qui travaillent sur vraiment une grande diversité de sujets, en fait, puisque, peut-être qu'on se répète un petit peu, mais quand on part de la question de la dette, en fait, on peut vraiment toucher tous les sujets, que ce soit les sujets écologiques, parler de la migration, parler des questions féministes ou quoi que ce soit. Et donc en fait, comme les politiques qui sont adoptées pour lutter contre la dette vont vraiment impacter toute la population et sur, à tous les niveaux, en fait, les collaborations sont toujours pertinentes avec qui que ce soit. Quoi.
Ouais. Vous, enfin, du côté du CADTM, il y avait ce travail légal sur les fonds vautours dont vous parliez. Au niveau des chefs ou d'associations LGBTQIA+, plus coupole ou plus importante, il y a des actions législatives aussi pour faire évoluer les lois et...
Du côté des chefs, on n'est pas très dans la loi en tant que telle, mais ce qu'on essaie de faire, c'est du militantisme. Participer à des manifestations, entre autres, faire de la sensibilisation, faire circuler des pétitions, vraiment informer les gens au maximum sur les différents enjeux et les différents problèmes qu'on a sur les enjeux LGBTQIA+.
Et au niveau de d'autres associations, tu
connais sûrement plus
Aurélio.
Que moi, si tu peux présenter.
On travaille avec plusieurs associations différentes. On fait partie de la fédération PRISM qui est basée à Liège, qui elle a encore plus d'ampleur que nous au niveau fédéral. Les chefs sont une association qui n'appartiennent à aucun parti politique. Je ne sais pas si c'est ça la question.
Non, c'était plutôt voir, on peut avoir cet exemple du mariage pour tous comme avancée législative qui amène des droits supplémentaires. Et la question, c'était de voir quelles pourraient être d'autres lois, d'autres combats actuels.
Actuellement, il y a eu la question de la thérapie de conversion qui est passée il y a quelques temps.
Il y a quelques jours, quelques semaines.
Oui, voilà.
Même pas.
Il y a quelques temps, c'était tout récent. Et là, je sais qu'il y a plusieurs membres qui ont été, mais les chefs n'ont pas été représentés en tant que tels avec le nom dans la convention, etc. Mais en tout cas, ça, c'était un enjeu qui a été discuté au sein des chefs et dont les membres étaient très, très intéressés par la problématique et qui a été approuvée à l'unanimité.
Et dans les autres choses qu'on aimerait avoir prochainement aussi, ce serait entre autres la suppression des marqueurs de genre sur les cartes d'identité, qui est quelque chose de très important. Moi, personnellement, je viens du Canada et sur mon passeport canadien, il s'est marqué genre X. C'est quelque chose qui est faisable, il y a plusieurs pays qui l'ont fait et ce serait quand même le temps en Belgique qui se proclame très avancé niveau question queer, mais il manque toujours ça entre autres.
Et est-ce que c'est en cours ou il n'y a rien du tout à ce sujet-là ?
C'est en cours, mais ça prend du temps.
Il y a déjà quelques politiciens qui en ont parlé, mais il faut des avancées beaucoup plus grandes et c'est vraiment une problématique qui est de plus en plus compliquée. Et oui, il y a encore des pays qui sont encore moins avancés que la Belgique, mais il y en a plein de pays qui ont réussi très facilement à retirer ce marqueur. Qui la Belgique ne l'est pas du tout encore.
Le nivellement par le bas, c'est jamais une bonne chose. Mais du coup, j'avais plus une question. J'ai posé la question des moyens d'action du CADTM. Enfin, là, on parle de luttes dans lesquelles vous êtes impliqués, mais je voulais voir les chefs en concret. Du coup, vous parliez de sensibilisation, mais est-ce qu'il y a autre chose ou c'est principalement la visibilité de votre public ou...
Mais il faut rappeler que les chefs, c'est une organisation jeunesse, donc c'est surtout fait par des jeunes et pour des jeunes. Donc on se concentre plus sur, aider les jeunes qui sont peut-être en difficulté par rapport à leurs identités de genre, leur orientation sexuelle ou romantique. Par exemple, on fait plusieurs activités à travers nos différents pôles, que ce soit des soirées plus festives, que ce soit du militantisme, que ce soit tout simplement des accueils, offrir un safe space à ces jeunes-là pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils vivent, peut-être se trouver une communauté et tout. Donc nous, c'est vraiment l'aspect de la communauté qui nous intéresse. Et ensuite, la visibilité et offrir une voix aussi à ces jeunes-là. On a plusieurs projets en cours. Au chef, par exemple, on aimerait faire des capsules vidéo. On pense peut-être ouvrir un compte TikTok, faire des podcasts, des choses comme ça, vraiment que les jeunes puissent s'exprimer et en laissant les jeunes s'exprimer, qu'ils aient plus de visibilité dans la société aussi.
Alors, on a une équipe de permanentes qui, eux, donc les chargés de projet font également des formations pour le grand public. Pour actuellement un projet qui est en construction, c'est ce qui va être formation des professionnels. Il y a aussi un projet d'ouvrir des actions dans les écoles primaires. Actuellement, il y a déjà des actions qui sont menées dans les écoles secondaires par nos permanentes. Et donc, il y a le gros projet qui est déjà depuis quelques années. Maintenant, c'est les formations genre et jeunesse qui se font en collaboration avec d'autres associations telles que Crible et Alter Visio, si je ne me trompe pas. Et qui est là, donc plusieurs cycles de formation qui sont consacrés tant aux thématiques LGBTQAP+, tant que tout ce qui va être inclusion des personnes concernées dans les médias, etc. Il y avait, dans cette formation-là, il y a aussi la partie Evrasme pour des personnes qui sont potentiellement dans les capacités de donner des formations Evrasme pour que la communauté LGBT soit aussi intervenue dans les formations Evrasme que les personnes donnent aux écoles. Et c'est des formations qui sont vraiment ouvertes à tout le monde, étudiants, professeurs, une personne qui veut se former aux thématiques, c'est ouvert à tout le monde.
J'ai une question un peu naïve, mais désolée. Tu peux juste me rappeler, parce que à l'époque où moi j'ai fait mes études, on disait Evrase, et du coup, oui, Evrasme.
Oui, non, mais c'est peut-être moi qui le prononce mal, je suis désolée.
Du coup, c'est éducation à la vie, oui, relationnelle, et amoureuse et sexuelle.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'aurais une question pour les deux. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? Et si on veut militer avec vous, comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre?
Alors, chez les chefs, on a un site internet où il y a toutes les informations pour nous retrouver. Donc, c'est leschefs.be. On a aussi Facebook et Instagram, donc leschefs ASBL. Il y a nos cercles un peu partout dans la Wallonie et à Bruxelles. Donc, il y a Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Mons, Charleroi, Liège et Verviers qui eux ont chacun et chacune des pages Facebook et Instagram pour chaque pôle.
Oui, pardon. Du coup, nous on est aussi présent sur Instagram, on a un site internet, on est présent sur Facebook aussi. Il faut savoir qu'il y a CADTM Belgique, CADTM International, c'est pour toutes les locales, etc. de partout. Donc notre site internet en fait est quand même assez fourni, il est pas très beau, parce qu'il date des années 90, mais il continue à être actualisé, etc. Faut pas se laisser rebuter, il est dans plusieurs langues aussi, il est en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en portugais je pense, et en italien. C'est pas exactement le même site, il n'y a pas la même fréquence d'articles, mais en tout cas voilà, il y en a pour toutes les langues en tout cas. Il y a plusieurs onglets, dont un onglet nous aider. Et donc là, vous pouvez envoyer un mail pour vous inscrire à la newsletter et aussi pour essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est très large comme champ d'action, ce que vous pouvez faire pour nous aider. Ça peut être de la traduction d'articles, ça peut être de la préparation d'événements, venir avec nous en manifestation, préparer Esperanza ici. On a quelques militants et militantes qui nous aident sur le stand. Donc c'est vraiment assez large. Et par exemple, on va aussi faire les rencontres d'automne. Donc c'est en gros comme des universités d'été, mais comme c'est fin septembre, on appelle ça des rencontres d'automne. C'est organisé par le CADTM à Liège le dernier week-end de septembre. Et on vous invite à venir voir et à participer. Il y a moyen de loger sur place. Et ce sera vraiment une occasion de rencontrer aussi des gens du réseau international. Les inscriptions sont en ligne. Il y a les liens sur le site. C'est reposté sur Instagram, etc. reposté sur Instagram, etc. Et donc voilà, vous pouvez nous trouver là. Et aussi au village de Possible, pas très loin des chefs, du coup.
Oui. Et est-ce que ça vous dit de faire une petite pause avant de continuer avec toutes les questions? On va faire une petite pause avec une chanson d'un artiste qui va passer ce soir. C'est Pomme, je pense qu'on la connaît tous. C'est la tête d'affiche d'aujourd'hui. On va écouter la chanson On brûlera.
Radio Esperanza.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi.
Voilà, nous revoilà. Donc, l'introduction a pris beaucoup de temps parce que c'est intéressant pour nous mutuellement d'apprendre à se connaître. Maintenant, ici à Radio Esperanza, notre intérêt c'est de faire venir deux associations ensemble pour faire un peu des liens entre les luttes et souligner la convergence des luttes et les rassemblements qu'on peut faire ensemble, même si ici on s'est donné un petit challenge parce que ça paraît éloigné, alors que ça ne l'est pas. Au final, j'ai l'impression que dans les moyens d'action et dans la visibilité que vous essayez mutuellement de donner à vos publics respectifs, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Donc on a un peu discuté ici pendant la musique de coupure pour essayer de discuter de ça. Je sais pas qui souhaite, si l'un de vous souhaite un peu commencer ce qu'on a abordé.
Oui, bah on disait les deux luttes ont l'air assez éloignées l'une de l'autre, alors qu'au final tout est intersectionnel, on peut lutter tous ensemble pour nos objectifs communs. Et pour moi, le lien le plus important que je fais en fait, c'est la communauté LGBTQIA+. En ce moment, on se bat en Belgique, dans des pays dits développés, alors qu'il y a des gens de la communauté queer vraiment partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui, selon moi, les gens queer dans ces pays-là ont pas la voix qu'ils devraient avoir, peut-être pas l'éducation, peut-être pas les moyens même de se rendre compte de ce qu'ils sont et tout. Et pour moi, c'est tous des liens dans le sens, si les pays étaient mieux financés, si les pays étaient mieux éduqués et tout, ça pourrait être tellement mieux pour d'autres personnes qui en ce moment vivent, se sentent pas bien en eux-mêmes. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce propos.
Oui, bien sûr. En fait, comme on l'expliquait, donc, la dette crée en fait, souvent... En fait, le problème, c'est que la dette est un accélérateur et un concentrateur des inégalités. Puisqu'on sait que quand on dit qu'on doit gérer des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, on le voit même dans les ménages, on se concentre sur l'essentiel. Et en fait, je dis l'essentiel, je fais des guillemets avec mes doigts, mais simplement pour dire que on peut en fait parler de toutes les questions. Il y a plein de questions qui sont importantes, les questions écologiques, les questions de genre, etc. On peut parler de tout ça en même temps et ce n'est pas exclusif l'une de l'autre, ces questions-là. Pareil pour les questions de dette. Et le problème en fait des politiques austéritaires, c'est qu'elles mènent au fait qu'on dit mais on ne va pas gérer des questions de genre maintenant alors qu'on doit gérer des problèmes financiers ou des choses comme ça. Ça prend énormément de place dans le débat public, trop de place. Comparé à d'autres questions comme les questions de genre qui sont super importantes et qui devraient vraiment avoir une place beaucoup plus importante aussi. Et en fait, ce genre de choses freine l'éducation qu'il devrait y avoir, que ce soit dans les services publics, parce qu'on sait bien que quand il y a des problèmes par exemple avec la police, avec les professeurs ou quoi que ce soit par rapport à la reconnaissance des genres et des transidentités et ce genre de choses, c'est des formations qui ne sont pas données parfois par manque de budget, par manque de volonté politique aussi, hein, on va pas se cacher derrière quoi que ce soit, mais il faut aussi une volonté politique, mais je veux dire, quand il n'y a pas de budget, on se sert de ça comme excuse et comme raccourci, et en fait ça ne permet pas d'avancer sur certaines questions qui ne le mériteraient. Et donc, en fait, les désinvestissements dans les services publics desservent de toute façon toutes les minorités et encore plus les minorités de genre, etc., puisque ce sont des questions qui sont invisibilisées, puisque les questions de finances, etc., prennent le pas sur toutes les autres.
Et moi, je ramènerais même ça au niveau individuel. Une personne, par exemple, si elle n'a pas de quoi se nourrir le lendemain, ces questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle et romantique, ça va prendre, ça va arriver au second plan. Et elle peut continuer, cette personne-là peut continuer à vivre un malaise à ce propos, mais ne pas pouvoir se concentrer dessus parce qu'elle a d'autres problèmes dits plus urgents, comme se nourrir, devoir travailler et tout. On peut parler par exemple de la queerphobie au travail. Par exemple, des gens qui n'ont pas accepté au niveau de leur identité de genre au travail, mais qui doivent garder ce travail-là pour vivre et que ça peut leur créer une énorme détresse. Ça peut leur créer de l'anxiété, toutes sortes de maux qu'on ne souhaite à personne, tout simplement parce qu'ils sont dans une situation précaire, ils n'ont pas le choix pour vivre en fait.
Oui, bien sûr, et pour rebondir là-dessus aussi, on peut faire le parallèle avec par exemple les transitions de genre qui sont souvent pas remboursées et tous les traitements qui ne sont pas remboursés qui vont à côté. Et en fait, tout ça, c'est aussi parce que c'est considéré comme des soins ou des transformations, mais de confort. Et ça ne devrait pas l'être si ça avait pénétré beaucoup plus la sphère publique. Et si on avait dit c'est important pour les gens, pour leur bien-être, etc. On devrait financer en fait toutes ces politiques publiques. Ça devrait être remboursé et ça devrait être normalisé, le fait que ça existe et ça doit ne pas être considéré comme quelque chose, comme une fantaisie ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'en fait il n'y a pas d'aide publique pour faire tout ça. Alors que c'est des transitions qui sont vraiment super importantes et essentielles pour plein de personnes qui sont en train de le faire. Donc oui, tout à fait, et ça c'est effectivement des questions qui se relient, et même si de base on avait un peu peur qu'on ait du mal à faire le lien, puisque effectivement on est tous et toutes solidaires, et qu'on pense qu'on doit tous mener les luttes vers un monde beaucoup plus inclusif, et aussi mieux fait de manière générale, mais en tout cas moi je suis content qu'on ait pu faire des liens comme ça, même si il y aura encore pas mal à dire je pense, mais c'est déjà bien. Je sais pas si t'as un truc à ajouter, Pablo? Ou vous,
Rio?
Ou des questions?
Merci à tous, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Et nous aussi, on s'est rendu compte qu'on vous mettait ensemble, on n'était pas très à l'aise de comment allait se passer le débat. Et au final, je trouve que c'était vraiment chouette. Et je suis très contente de vous avoir accueillis tous ici avec nous.
Merci de l'invitation.
Merci beaucoup.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou si on peut clôturer. Dernière chose à dire sur un agenda ou des choses, des invitations, des événements
Nous, du côté des chefs, on vous invite évidemment à venir nous voir au village si possible. Et puis, à partir de la rentrée, à travers nos différents pôles, on va faire plein d'activités pour les jeunes, principalement dans le milieu étudiant. Donc, si vous êtes des villes qu'on a nommées plus tôt, que vous êtes intéressé de vous impliquer dans la communauté queer, n'hésitez pas à trouver le pôle de votre ville. Moi, personnellement, je serai à l'ULB, à la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Donc, on aura un stand là-bas si vous voulez voir, vous informer, vous inscrire pour participer à nos activités. Vous êtes les bienvenus.
Merci.
Et vous êtes dans... Tu as parlé d'un événement que vous allez faire en septembre. tu peux réinviter les gens à participer?
Oui, bien sûr. Donc, c'est les rencontres d'automne du CADTM. Donc, ça se passe à l'Auberge Chiménon à Liège. Pour ceux qui connaissent, c'est en Outre-Meuse. Ça se passe donc le 29, le 30 septembre et le 1er octobre. Il y a moyen de loger sur place. C'est une suite de conférences, de débats. On fait aussi une soirée avec les anticapitalistes le samedi où il y aura du slam et on fait la fête, en fait, simplement, le festival anticapitaliste. Donc, on fait un co-événement pour le samedi soir. Donc, n'hésitez pas à venir parce que c'est des gens très chouettes. Et donc voilà, il faut aussi savoir que c'est malheureusement payant, mais que le prix ne doit jamais être un problème. On considère ça aussi pour nos publications, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer des mails, à discuter, puisque le savoir et l'accès au savoir ne doit jamais être conditionné par l'argent. Et ensuite, bah, allez voir le stand des chefs, parce qu'il est super.
Et on donne des petits badges dinosaures.
Voilà. Oui.
Qui sont super.
Est-ce qu'on finit l'émission avec une chanson? Vous êtes d'accord?
On finit avec une chanson, bien sûr.
Allons-y. Merci ouais. À tous, en tout cas.
Et ensuite, bah, allez voir le stand des chefs, parce qu'il est super.
Et on donne des petits badges dinosaures.
Voilà. Oui.
Qui sont super.
Est-ce qu'on finit l'émission avec une chanson? Vous êtes d'accord?
On finit avec une chanson, bien sûr.
Allons-y. Merci ouais. À tous, en tout cas.
Merci.